Face à Duhamel avec ce soir Thomas Legrand, éditorialiste à Libération et France Inter. Bonsoir Thomas.
Bonsoir messieurs.
Bonsoir.
Bonsoir Alain Duhamel. Russes et Américains sont donc convenus, si on se fie aux dernières heures, à Riyad en Arabie Saoudite, d'enclencher ce que l'on appelle un mécanisme de consultation pour eux-mêmes régler leurs différends, leurs contentieux selon le terme employé, et puis travailler sur le règlement du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Écoutez Marco Rubio et Sergueï Lavrov, les deux chefs de diplomatie.
Nous avons discuté de nos relations bilatérales et de l'importance d'assurer au monde, si ce n'est l'entente parfaite, au moins d'entretenir des relations et un dialogue normal entre les grandes puissances. Il faut tirer les leçons de ce qu'il se passe et ne pas laisser de nouvelles crises éclater.
Le président Trump s'est engagé à mettre fin à ce conflit, comme il l'a dit lors de sa campagne présidentielle. Il veut que ce conflit se termine d'une façon juste. Il souhaite une paix durable, pour éviter que cela mène à un autre conflit dans 2 à 3 ans. Cela ne va pas être facile, mais c'est le seul président à pouvoir engager quelque chose.
Alors, pas un mot sur les Européens, même si poliment on dit que ce serait bien qu'ils prennent part aux discussions. Mais on a l'impression véritablement qu'aujourd'hui Donald Trump et Vladimir Poutine sont en train de faire de la peau de l'Europe, ou tout du moins qu'ils veulent sa peau, Alain Duhamel.
Écoutez, je pense que pour l'Europe, on n'est pas en ce moment dans une période banale, mais dans une période cruciale. Je pense que ce qui se passe entre les États-Unis et la Russie, c'est une tentative d'effacement diplomatique de l'Europe. Et comme au même moment, entre les États-Unis et la Chine, il y a une tentative, sinon d'effacement, du moins de subordination et de dépendance de l'Europe, eh ben c'est une très mauvaise phase. Alors sur le plan militaire et en ce qui concerne l'Ukraine, c'est une évidence. C'est discuté entre Washington et Moscou. Bon, nous, on est en Europe, on est l'Europe. L'Ukraine veut entrer en Europe. On les aide, on donne de l'argent, on discute de savoir s'il faut les aider militairement encore plus qu'on ne le fait, etc. Mais on n'est pas à la discussion. En ce qui concerne les échanges commerciaux, Trump annonce à l'avance qu'il y aura des mesures de nature inégalitaire et prises uniquement comme il le veut, comme ça, en dehors des règles de l'OMC. Et comme au même moment, les Chinois sont les empereurs pour arriver à tourner toutes les lois, toutes les réglementations de l'OMC, on est vraiment dans une situation d'un côté d'absence et de l'autre de dépendance. Et la pire des choses, à mes yeux, c'est que au milieu de ça, au lieu d'avoir une réaction un petit peu de solidarité et sinon d'agressivité, du moins d'offensive de la part des Européens, on se divise. On se divise parce qu'il y a des pays qui en réalité sont plus proches de Moscou que de Bruxelles. Bon, type la Hongrie, type la Slovaquie, et à moitié l'Italie, malheureusement, ce qui est encore plus grave. Et puis, il y a d'autres pays qui regardent émerveillés vers les États-Unis. Et au milieu de ça, ça ne me fait pas plaisir de le dire, mais je trouve que c'est quelque chose que je suis depuis des années. Angela Merkel, puis Olaf Scholz et Ursula von der Leyen ont été des freins à toute tentative de ce qui pourrait ressembler dans certains domaines à de la souveraineté collective. C'est-à-dire, on fait sans le vouloir le jeu de ceux qui essayent de nous subordonner.
Thomas ?
Oui, et pour compléter tout ça, je dirais que ce à quoi on assiste, c'est non seulement un effacement de l'Europe, mais un renversement d'alliance même idéologique et de la façon de voir le monde. En réalité, la discussion entre Trump et Poutine, c'est un alignement sur ce que pense Poutine. C'est-à-dire, c'est un alignement idéologique et illibéral qui va à l'encontre de ce que représente l'Europe. L'Europe, c'est le lieu de l'état de droit, le lieu du multilatéralisme, le lieu du capitalisme rhénan, ce qu'on appelle le capitalisme rhénan, c'est-à-dire le capitalisme un peu
tempéré,
régulé, négocié avec des contrats entre les groupes sociaux, ça c'est la social-démocratie, les chrétiens démocrates font en sorte que l'économie aussi soit au service du plus grand nombre. Il y a tout ce modèle-là qui date de la guerre de 40, enfin d'après de l'après-guerre, qui a été construit, c'est une philosophie européenne, et celle-là, elle est battue en brèche par des autoritaires, des populistes et des illibéraux. Et tout ce qu'on représente, maintenant, on est un petit peu le village gaulois de cette, de ce qu'on appelle plus de façon synthétique la démocratie libérale. Et moi, je trouve que, comme Alain, il n'y a personne, il n'y a pas une voix assez forte pour expliquer tout ça et pour le défendre.
Bah, c'est surtout pour répondre.
Deux choses. D'une part, c'est vrai que les intérêts actuels, les comportements actuels et même souvent le langage actuel de Poutine d'un côté et de Trump de l'autre convergent à notre détriment. Ça, c'est vrai. Ça n'est pas du tout pour la même idéologie.
Ce sont
deux régimes autoritaires, deux personnalités autoritaires.
Deux masculinistes.
Il y a quand même passablement plus de liberté.
L'un est quand même une démocratie et l'autre non.
C'est ce que je commençais à dire.
D'accord.
J'ai pas eu l'occasion de plus d'un mot, mais c'est ce que je commençais à dire. Il y en a une qui reste.
Ce sont deux chrétiens intégristes, deux autoritaires. Il y a des convergences. C'est pas les mêmes régimes, mais il y a des convergences idéologiques.
Oui, mais d'accord.
Alors qu'il y a des divergences avec nous.
Ce sont deux adversaires pour nous. Ce sont deux alliés entre eux, mais ce ne sont pas deux régimes identiques, ce n'est pas la même espèce.
Mais ils vont l'un vers l'autre et ils s'éloignent de nous, plans philosophiques.
Alors, les États-Unis de Trump s'éloignent de nous, pas tous les Américains, s'éloignent de nous. Du côté de Poutine, il n'a jamais été proche, il n'a jamais eu envie de se rapprocher. Hein.
Non, mais il y a un moment...
Et moi, j'étais frappé en regardant Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, qui s'exprimait tout à l'heure et qu'on montrait sur nos écrans. C'est extraordinaire, on avait l'impression qu'on était sous Brejnev.
C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai dit l'Union soviétique.
Le même style, le même physique, le même comportement, les mêmes gestes.
D'accord,
enfin, c'était hallucinant.
Et l'Ukraine dans tout ça? Et la liberté et la paix?
Justement, il s'assied dessus. Voilà. Et il s'assied dessus.
Et
il s'assied dessus d'un commun accord. Maintenant, la question est de savoir si quelqu'un, et là je ne suis pas d'accord avec Thomas, est-ce qu'il y a quelqu'un qui au moins indiquait une direction? Ben oui, il y a Macron. Oui. Parce que Macron, il a indiqué depuis 2017...
On a l'archive, Alain. Justement, comme ça, on va l'écouter pour pouvoir étayer votre...
Je racontais des histoires.
Bien sûr que non. L'archive vous donne raison.
Nous devons désormais engager des actions concrètes. La première clé, le fondement de toute communauté politique, c'est la sécurité. Nous vivons en Europe un double mouvement, un désengagement progressif et inéluctable des États-Unis et un phénomène terroriste durable qui a pour projet assumé de fracturer nos sociétés libres. L'Europe, dans ces domaines, a enfin pris conscience de ses fragilités et de la nécessité d'agir ensemble. En matière de défense, notre objectif doit être la capacité d'action autonome de l'Europe en complément de l'OTAN. Ce qui manque le plus à l'Europe aujourd'hui, à cette Europe de la défense, c'est une culture stratégique commune. Notre incapacité à agir ensemble de façon convaincante met en cause notre crédibilité en tant qu'Européens. Au début de la prochaine décennie, l'Europe devra ainsi être dotée d'une force commune d'intervention, d'un budget de défense commun et d'une doctrine commune pour agir.
Vous avez raison de le dire, mais il n'est pas parvenu à en convaincre tous les autres.
Ce que je disais, Alain, quand je disais qu'il n'y a pas de voix pour porter ça, il y a la voix.
Je disais voix, au sens de VOIX, et peut-être vous, VOIE.
Non, VOIX, c'est-à-dire sa voix porte ça, mais ce n'est pas une voix qui engage toute l'Europe, ce n'est pas une voix qui est suivie, ce n'est pas une voix qui a autant d'autorité que les autoritaires, un peu par définition, sur leur ensemble, sur leur parti politique. Et puis cette voix-là, qui était tout à fait pertinente en 2017, est devenue un peu moins lisible à partir du moment où il y a eu l'invasion, et où il y a eu ce flottement, ces espèces de coups de fil où il a pensé qu'il pouvait peut-être influencer le cours des choses à lui tout seul, et où il a dit à un moment qu'il ne fallait pas humilier la Russie. Il est revenu assez rapidement et finalement assez efficacement, et c'est la voie la plus constante quand même en Europe sur ce sujet-là, je suis d'accord, mais malheureusement, il n'est pas suivi pour des raisons d'ailleurs d'intérêts divergents entre les Allemands et les Français, on n'a pas le même structure industrielle, etc.
Et ce qu'on a beaucoup oublié, il y avait eu une célèbre interview à l'hebdomadaire britannique The Economist, dans lequel il avait créé un véritable scandale, non seulement en Europe, mais aux États-Unis, en disant l'OTAN est morte, l'OTAN est carbonisée.
Là, il avait raison.
Et il avait raison.
Mort cérébrale, oui.
Ouais. Mort cérébrale. Bon, je suis d'accord sur le fait qu'il ne s'agit pas simplement d'avoir raison, il faut être capable de faire comprendre ses raisons à ceux avec qui on a envie d'avancer.
Il faut surtout réagir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, malheureusement...
C'est une question pour Alain.
Oui, mais juste un mot avant que vous posiez cette question. C'est qu'aujourd'hui, on ne voit pas quelle est notre capacité de réaction ? Notre capacité aujourd'hui de dire, écoutez, voilà le plan alternatif, voilà quelques propositions qu'on vous fait, quelques amendements pour prendre un terme législatif. On voit pas comment on peut arriver, entrer dans ce débat. En plus, il a lieu à Riyad. Ça paraît assez baroque, mais c'est à Riyad, entre les États-Unis, entre la Russie, et avec ce soir d'ailleurs l'Ukraine qui accuse Trump d'alimenter l'appétit de Poutine. Vous voyez, et nous, on est là, on regarde, impuissant.
Mais Alain, qui observe l'Europe et qui est un amoureux de l'Europe et qui est un défenseur de l'Europe depuis que je le regardais à la télévision quand j'étais jeune et puis maintenant que je le fréquente de plus près, et à chaque fois que l'Europe est en crise ou que l'Europe est attaquée, singulièrement depuis 2016, la première élection de Donald Trump, on dit, là, l'Europe va réagir. Là, elle a compris qu'elle est seule. Il faut vraiment, ça y est, elle va enfin. Et puis, est-ce que cette fois-ci, vous y croyez, Alain, est-ce que cette fois-ci, il va y avoir une réaction
une unité? Je pense bien que le sujet soit discutable par principe, mais je pense que Emmanuel Macron a eu raison d'improviser non pas un Conseil européen dans lequel on ne se met pas d'accord, et donc c'est une façon de tout enterrer, mais d'organiser quelque chose pour, au fond, marquer le coup et essayer de voir qui est prêt à aller où. Maintenant, le
Il
problème.
Il n'en est pas sorti un grand coup de poing, quand même.
Maintenant, mais non, c'est ce que j'allais dire. Maintenant, on a vu les différences de comportement. Il y a Giorgia Meloni qui est arrivée délibérément en retard, qui ensuite a multiplié, par l'intermédiaire de son ministre des Affaires étrangères, des déclarations incendiaires dans toute la presse italienne, et qui en gros dit ce que fait Trump est bien, nous, on n'a qu'à dire OK. Voilà, la politique étrangère de Meloni, c'est dire OK à Trump. Donc dire OK à Poutine, évidemment. Parce que le vrai drame dans cette affaire, c'est que ce que dit Trump, c'est ce que disait Poutine, et ce qu'il n'a cessé de penser. Et alors la question, c'est vrai que c'est le problème éternel qui se pose pour les Européens, est-ce que on, c'est souvent la France, et pas simplement Macron, hein, ça remonte à loin.
C'est souvent la France et l'Allemagne, et là...
La France sans l'Allemagne, mais il y a quand même un point.
Il y a l'Angleterre qui revient.
Alors deux choses. Un, c'est vrai... Il y a la Grande-Bretagne qui a pris l'initiative de se rapprocher sur des positions qui sont relativement, en tout cas, compatibles avec les nôtres. Pas identiques, mais compatibles, d'une part. Et puis, d'autre part, il y a des élections législatives dimanche en Allemagne. Le plus probable est que c'est quand même les conservateurs qui vont l'emporter, c'est-à-dire les démocrates chrétiens, conservateurs. Bon, mais celui dont on parle pour être le prochain chancelier, lui est partisan de plus de volonté et de plus de solidarité, notamment avec la France. Donc peut-être que ça peut suffire.
Oui, mais, sur ces questions-là.
Sur les questions financières. Mais alors.
Qu'est-ce que le président Macron va faire avec Donald Trump? Est-ce qu'il reste un interlocuteur avec qui on doit continuer de discuter, tout faire entendre notre voix, ou pas? Est-ce que c'est un ami ou un ennemi?
Non, bien sûr, c'est ni un ami ni un ennemi. En tout cas, c'est plus un allié. L'Amérique reste un allié.
C'est pas un ami.
C'est pas un ami, Trump. C'est pas non plus un ennemi. C'est vraiment un adversaire. Il s'oppose à toutes les valeurs européennes. On commence à revenir sur l'idée qui, moi, m'exaspère, de dire, oui, mais alors Trump fait... Faisons attention, c'est un dealmaker. Vous savez, c'est un dealmaker, il faut dealer avec lui. C'est pas un dealmaker, c'est un mafieux.
C'est un faiseur d'accord.
Non, c'est un mafieux. Un deal... Quand vous faites un deal avec quelqu'un, le seul risque que vous devez encourir, c'est que le deal ne se fasse pas. Si vous faites un deal avec un pistolet sur la tempe, avec un ours qui vous menace, c'est de la mafia. Donald Trump dit à Zelensky, je te protège si tu me donnes tes terres rares, c'est exactement la même chose que quand Al Capone rentre dans un magasin de New York pour dire ton magasin va sauter si tu payes pas ta dîme. Vous savez, il y a eu une réunion des trois plus grands mafieux aux États-Unis à Atlantic City en 1929. La réunion en Arabie Saoudite ressemble plus à cette réunion-là qu'à Yalta, si vous voulez.
Bon, c'est un mafieux, Trump?
Alors non, moi je dirais, j'emploierais pas le terme mafieux.
Bon, en tout cas, c'est pas un dealmaker.
Même si son itinéraire professionnel avant son itinéraire politique,
je parle de ses méthodes.
Ne correspond pas très exactement à un idéal, hein, y compris un idéal commercial normal.
Ses méthodes menaçantes.
Oui, oui. Je pense que les États-Unis ont toujours été le plus puissant de nos alliés, qu'aujourd'hui, on ne peut plus les considérer comme des alliés. Ce serait téméraire de dire ça. Donc, ce sont les cousins dominateurs insupportables qu'on a quelquefois dans la famille.
D'accord.
Et avec
et donc
qui,
on doit subir.
Et pas forcément, on peut essayer de leur tenir tête et de les infléchir. Et il ne faut pas non plus être masochiste. Pour Trump, ce qui compte d'abord, c'est les Chinois qu'il faut combattre et les Russes avec qui il faut dealer. Mais il n'est pas totalement indifférent non plus aux Européens parce qu'on est quand même le premier marché commercial du monde. Donc pour les États-Unis,
ils ont besoin de nous.
Ils ont absolument besoin de nous.
Il y a une société civile américaine.
Et absolument, c'est pour ça que je le disais tout à l'heure. Et la France, enfin l'Europe en général et la France en particulier, n'est pas effacée. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'ils se sont parlé, Trump et Macron,
avant la réunion.
Donc ça veut pas dire qu'on est un poids comparable, ni de près ni de loin, avec ce que représente pour lui la Russie. Mais ça veut dire qu'on n'est pas non plus effacé.
Merci Alain Duhamel. Merci Thomas Legrand.